Le béton est moins cher que les poitrines. Bonjour, c'est Samuel Goldschmidt. C'est avec ces mots d'André Maginot que je vous emmène cette année à la redécouverte de la ligne qui porte son nom et qui revient brutalement dans l'actualité depuis que l'Europe est entrée dans une nouvelle guerre en Ukraine.
Plusieurs personnes nous demandent déjà si on peut leur réserver des places. Un conflit de ce genre amène tout le monde à se reposer des questions qu'on avait totalement occultées parce qu'on avait l'impression d'être passé déjà à un autre monde, à un monde moderne, où on ne parlerait plus jamais de guerre de ce type.
8 mai 1945, l'Allemagne capitule. Sur le champ de ruines physiques et politiques qu'est l'Europe de l'Ouest, une nouvelle guerre est déjà en train de mûrir. Un conflit sournois, silencieux, invisible, sans déclaration, la guerre froide. La nouvelle menace, c'est le bloc soviétique. La nouvelle grande peur, c'est l'arme atomique. Et la ligne Maginot, loin de tomber dans l'oubli, va connaître une nouvelle et longue carrière après-guerre, mais oui, car ses souterrains et ses blocs de béton ont été à peine égratignés par la guerre. Le colonel Michel Trutmann, spécialiste des fortifications, est l'auteur de Hackenberg, le géant de la ligne Maginot, aux éditions Arès.
On songe, avec la montée en puissance de la menace à l'Est, eh bien à réarmer la ligne Maginot. On recrée d'abord, à l'issue de travaux faits par le génie de manière modeste, avec peu de moyens après-guerre, le génie petit à petit a remis en état les forts, en remettant de l'éclairage, en recomplétant le diesel qui manquait, en remettant en route des ascenseurs. Et ensuite, eh bien, on a petit à petit réétudié ce qui était nécessaire à protéger le nord-est de la France face à une attaque de l'armée rouge.
C'est aussi la raison pour laquelle les ouvrages ont été aussi bien préservés comme au Hackenberg ou au Fissi Claude Poésy.
La question qui s'est posée, c'est si l'Union soviétique nous attaque, qu'est-ce qui pourrait arrêter l'armée soviétique? Et donc on va réarmer la ligne Maginot avec des crédits de l'OTAN. Les lieux sont entretenus, on y a des projets, etc. Et quand le général de Gaulle décide de quitter l'OTAN, eh bien les crédits sont coupés. On va fermer les ouvrages les uns après les autres. Ils vont être littéralement pillés pour certains. Et ici, au Hackenberg, on a eu la chance que le Hackenberg, il y a des derniers ouvrages qui aient été fermés. On y a laissé quelques hommes qui faisaient l'entretien. Et du coup, on a pu sauver beaucoup plus de matériel que dans d'autres ouvrages qui sont aujourd'hui totalement pillés et abandonnés.
Mais dans ces années 60, des travaux d'ampleur sont entrepris. On peut voir aujourd'hui au Schönenbourg une entrée totalement modifiée que nous décrit Marc Alter, le directeur de l'ouvrage.
Alors ici, on est sur la deuxième entrée du fort de Schönenbourg, celle qu'on appelle l'entrée des hommes. Elle a une particularité unique. Elle a été explosée par les Allemands en 1945, au mois de mars, et complètement reconstruite à neuf, dans un tout nouveau style, par l'armée française en 1954. Dans le but de réhabiliter l'ouvrage de Schönenbourg, et ça aurait dû servir de poste de commandement pour la défense anti-aérienne. Alors la façade, elle est construite sur un style complètement nouveau. On voit que les cloches, les coupoles sont intégrées dans la façade. Elle est un petit peu plus petite. L'entrée se trouve 4 mètres plus bas pour qu'un souffle d'une grosse explosion glisse sur l'entrée au lieu de taper directement dans la porte. On est dans la guerre froide, 1954, on est en plein dedans. Les Russes ont fait péter leur première bombe en 1949. Et là, donc, c'est une tentative française. Donc là, on a au fort de Schönenbourg l'entrée de 1933. Et l'entrée de 1954.
D'autres ouvrages seront modifiés dans le cadre de l'OTAN jusque tard, après la Seconde Guerre mondiale. Le colonel Michel Trutmann en a été témoin.
Alors en 60 jusqu'en 66, départ de l'OTAN, on conserve certains postes de commandement. L'ouvrage de Rochonvillers et celui de Molvange servaient au PC Centre-Europe. Il y avait des antennes qui étaient déployées pour communiquer à très grande distance, notamment avec Washington, etc. Et ces ouvrages avaient été transformés en postes de commandement souterrains. J'ai connu dans ces forts les grandes cartes du poste de commandement Centre-Europe qui sont probablement encore en place dans certains endroits de Molvange ou de Rochonvillers.
1960 marque une charnière. Le général de Gaulle, revenu au pouvoir, a confirmé le programme nucléaire français et le 13 février explose Gerboise bleue, le nom de code du premier essai de bombe atomique français dans le Sahara algérien à Reagan. La doctrine de défense va changer du tout au tout.
En 60, le général de Gaulle, revenu aux affaires, comme président de la République, dit « on arrête tout, on sort du commandement intégré de l'OTAN, mais au préalable, on a la force de frappe, la ligne Maginot en tant que bouclier de freinage, moyen de freinage de l'armée rouge, n'a plus d'utilité et on a la force de frappe, la dissuasion nucléaire, donc on abandonne la ligne Maginot.
La plupart des ouvrages va connaître une période d'abandon et de détérioration avant que des associations ne s'intéressent à leur sort et réhabilitent ce patrimoine. Mais deux forts vont connaître un sort différent et prolonger encore l'utilité de la ligne, le Horwald en Alsace du Nord et le Montagel au bord de la Méditerranée.
Le Horwald a servi en tant que base aérienne sans avion, surveillant le quart nord-est de l'Europe, avec un relais qui était... pour toute la partie sud et Méditerranée, le Montagel, qui est un autre ouvrage de la ligne Maginot. Et le Montagel, qui domine à 1100 mètres la rade de Monaco, eh bien, possédait également cette capacité de détection lointaine. Et l'un plus l'autre faisait qu'on avait une détection allant jusque aux frontières du pacte de Varsovie, aux frontières même de la Russie. Personne ne le sait, à part ceux, bien sûr, qui ont servi dans cette base aérienne souterraine. Base aérienne qui, comme un autre ouvrage de la ligne Maginot, avait été encore remodernisée dans les années 80 par l'adjonction de dispositifs parasouffles aux entrées, permettant de se protéger des plus gros bombardements, nucléaires ou pas.
Le Horwald, aujourd'hui encore, est site militaire, impossible de s'en approcher, sauf avec le commandant Philippe Leichnam, qui a travaillé jusque dans les années 2010 dans un fort devenu base aérienne 901 de Drakenbronn.
Si le pacte de Varsovie avait choisi de bombarder la France, eh bien c'est Drakenbronn qui allait voir l'invasion, le raid aérien, en premier.
Les habitués les repèrent tout de suite. Pour les touristes, il faut parcourir des yeux le sommet de la crête pour voir deux dômes dépasser de la cime des arbres. Ce sont les gigantesques radars installés pour le premier en 1952.
Il est radomé parce que cette antenne radar qui tourne a une surface de 120 mètres carrés. 120 mètres carrés au sommet de ce massif vosgien, eh bien, quand le vent souffle l'hiver, c'est vous dire la résistance qu'il faut au vent. Donc il a fallu le protéger, le mettre dans une sphère. Et il est très visible sur la route qui va de Lauterbourg à Strasbourg, de toute la plaine d'Alsace. On remarque une sphère, comme une boule de pétanque immense posée au sommet de la crête. Donc il se dessine, surtout par soleil couchant, on voit un soleil rose et rond. Et on voit une boule noire juste à côté.
Pour compléter les radars, une forêt d'antennes plus discrète est toujours à l'œuvre, disséminée dans la forêt. Toutes les données étaient renvoyées sous terre dans les galeries de la ligne Maginot. Philippe Leichnam a commandé l'escadron des systèmes de communication de la base.
Eh bien, toutes ces informations étaient transmises à 100 mètres sous nos pieds, dans la salle d'opération, une immense salle de quelques centaines de mètres carrés, où étaient installés les contrôleurs, les chefs de travée, les chefs de salle, et qui 24 heures sur 24 surveillaient l'espace aérien français. Des galeries supplémentaires ont dû être creusées, mais tout l'accès a évolué, puisque une porte blindée de nouvelle génération a été installée, un SAS pour combattre les attaques, certes nucléaires, mais les attaques radiologiques, bactériologiques, chimiques ou virologiques, ainsi que bien Merlon, puisque aujourd'hui on ne voit plus cette entrée trop facilement repérable par un avion. C'est une masse de terre avec du béton armé qui était là pour non seulement d'abord dissimuler, mais protéger l'ancienne entrée des munitions, l'entrée de la base aérienne souterraine, la défilée aux vues et aux tirs des coups ennemis qui auraient pu venir surtout du ciel.
Drakenbronn fait partie de la ceinture de radars installée de la Norvège à la Turquie qui surveille tout le trafic aérien militaire et notamment celui de l'Est sur une bande de 1000 km de large et tous les pilotes encore aujourd'hui connaissent l'indicatif de la ligne Maginot.
Alors quand un pilote devait reconnaître le contrôleur qui le contrôlait de ce souterrain de Drakenbronn, eh bien le contrôleur s'identifiait comme Riesling Radar. C'est le nom de ce site. C'est toujours indicatif, Riesling Radar.
Riesling Radar apparaît même dans le film Les Chevaliers du Ciel en 2005.
Riesling de Charco 21, quand vous retrouvez Mirage 2000.
Charco 21 de Riesling, maintenez position.
Les 1000 hommes de la base travaillaient dans une partie des souterrains mais devaient en connaître les autres galeries par cœur pour pouvoir évacuer.
Bien entendu, l'entraînement se faisait régulièrement, de jour comme de nuit bien entendu, mais surtout dans le noir, parce qu'il fallait se retrouver, connaître ces galeries, s'exercer à ouvrir les portes blindées de la ligne Maginot, car elle n'avait pas trop à évoluer, puisqu'elle fonctionne toujours très bien, il suffisait de les graisser, les manipuler, et puis de franchir ce fossé diamant pour nous retrouver libérés du souterrain.
La base souterraine a fonctionné jusqu'en 2015. Aujourd'hui, les galeries sont désertées, mais les radars et les antennes sont opérationnels avec ceux du Montagel. Une forme de revanche de la ligne pour ceux qui l'ont rêvée, conçue et construite.
J'ai personnellement connu le capitaine Pierre Stroh qui, en 1932, a dirigé la construction de cet ouvrage. Un homme fier, un polytechnicien, un homme qui avait le souci de la nation, de la défendre, et la défendant en construisant ce superbe outil qui était l'ouvrage de Horwald. Il nous a dit sa fierté de l'avoir construit, il nous a dit sa fierté d'avoir pu servir à la maintenance en 1940, il nous a expliqué comment il a saboté les câbles électriques avec de l'acide pour pas que l'occupant puisse réutiliser. Il a quand même en cela désobéi. Il a fait acte de résistance puisque le gouvernement français, le gouvernement de Vichy, avait expressément demandé que les ouvrages soient rendus en l'état. Mais là, pour un officier, il était incapable de faire cela et il fallait qu'il brise ses jumelles, il fallait qu'il perce ses culasses afin que le canon ne puisse pas être retourné un jour contre lui parce qu'on ne pouvait pas livrer un si bel outil à l'adversaire qui avait tant meurtri la France.
Faut-il réhabiliter cette ligne ? Michel Trutman en est persuadé.
Je pense qu'après-guerre, ça a été une mal-aimée. On a voulu lui faire porter tout le chapeau de la guerre de 40. Oui, je pense qu'il faut cesser de la critiquer, je dirais, bêtement. On entend beaucoup de critiques hein, dans tous les milieux. Hein. Mais en général, ce sont des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui sortent ça un petit peu comme le buzz ou comme un petit peu la tarte à la crème de la parole un peu facile pour déstabiliser quelqu'un.
Et si la ligne n'a plus de rôle militaire, elle a un rôle politique et même diplomatique que Marc Alter a vécu de près à l'ouvrage du Chenambourg. Et c'est un écho direct à une actualité brûlante, la guerre en Ukraine, qui a démarré en réalité au Donbass il y a 8 ans.
Ici au fort de Chenambourg, sont venus envoyés par le Parlement européen des députés russes et des députés ukrainiens, puisque nous sommes une association franco-allemande, et on devait présenter à ces députés la possibilité que d'anciens ennemis étaient capables de travailler ensemble. Et à l'époque, on était plein d'espoir, ça marchait très très bien. Et quand on voit ce qui se passe maintenant, c'est une véritable catastrophe. Ce qui amène d'ailleurs des réactions très particulières, parce que depuis qu'il y a les combats là en Ukraine, on a régulièrement, pratiquement tous les jours, des demandes de touristes qui nous demandent si ici, on peut venir se protéger contre des armes chimiques, contre des armes atomiques. Et le fort de Chenambourg et les autres ouvrages de la ligne Maginot prennent leur fonction de base, qui est la défense et la protection des humains.
Dans la première salle que voient les visiteurs au Hackenberg, Claude Poésy a affiché des cartes, l'Alsace-Moselle de 1870 à 1945, cette région qui a déchiré deux nations pendant trois guerres.
On partage plein de choses avec nos voisins. Hein. Notre histoire est mélangée, et je pense au territoire du Donbass où il y a des familles russes et des familles ukrainiennes, c'est exactement la même chose, mais ils sont voisins, ils partagent la même langue. Comme nous partagions le même patois alsacien mosellan en 1940 et même en 1914 déjà. On a l'impression que nos dirigeants ont occulté toute cette histoire passée pour refaire les mêmes erreurs.
C'est pour cela que Claude Poésy prend très à cœur son travail de pédagogue.
On est là pour expliquer qu'après tout ça, effectivement, il y a eu la construction de l'Europe. C'est une des étapes après la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale et les combats et Verdun. Il faut vraiment que les jeunes visitent tous ces lieux pour qu'ils comprennent qu'on a abouti grâce à tout ça, enfin, à la création de l'Europe.
Tous les guides des ouvrages sont frappés cette année par les questions parfois angoissées des touristes depuis mars dernier. Est-ce que l'on pourrait encore se réfugier ici ? Même vieille de 80 ans, la ligne Maginot retrouve brutalement ce rôle fantasmé de cocon. On creuse des tranchées en Ukraine, on écrase des villes entières sous les bombes, des scènes que l'on pensait abolies en Europe. S'il y a une leçon fragile peut-être à retenir en 2022, c'est que la paix peut revenir s'installer, même après les pires guerres. Cette leçon peut se vérifier tout simplement et tout près de nous, dans le béton de la ligne Maginot.